La Trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs.
Et bienvenue, vous êtes dans La Trouvaille, une émission qui a été créée par Maë, qui est en face de moi à ce moment même. Bonjour Maë.
Bonjour Colline.
Maë, tu as 20 ans, tu habites à Aubenas et tu es la créatrice donc, de La Trouvaille. Aujourd'hui, tu en es aussi l'invitée parce que tu es aussi créatrice de bijoux. Et pour cette émission de clôture, tu vas nous parler de ta pratique de création de bijoux. Pour commencer, est-ce que tu pourrais décrire cette pratique ?
Alors oui, je fais plusieurs types de bijoux. Je fais des boucles d'oreilles et des colliers essentiellement. Les boucles d'oreilles, je les fais en origami, donc avec du papier. Je fais aussi quelques boucles d'oreilles en argile. Et les colliers, je fais des pendentifs en argile. Et j'ai fait aussi quelques accessoires cheveux, des piques à cheveux. J'ai aussi pour projet de faire quelques éléments de déco, mais ça viendra plus tard.
On a les bijoux là sous les yeux. Est-ce que tu veux en décrire un ou deux plus précisément ?
Oui, peut-être on peut commencer par les colliers qui sont assez basiques. Donc j'ai un collier que j'ai monté avec une chaîne. Moi j'ai créé le pendentif. Après je fais le montage avec la chaîne. Le pendentif c'est un champignon en argile. Alors le champignon pour le créer, je fais une petite armature en fil de fer et j'essaye de le faire en une seule pièce pour éviter qui se fragilise, et je monte directement la tache, pareil, en fil de fer quand il n'est pas encore sec. Après, je laisse sécher, je ne fais pas cuire, je laisse sécher l'argile. C'est de l'argile fait exprès pour ça. Après, je peins, je vernis et je fais le montage en collier. Et j'ai un deuxième collier pendentif que là, j'ai monté non pas avec une chaîne, mais avec un élastique pour que ça aille à plus de personnes. Et là, c'est une petite chouette qui est représentée. En fait, je fais une petite boule et par-dessus, je peins les yeux, le bec et bien sûr la couleur de fond. Et pareil, je vernis et je fais le montage.
Il y a quelque chose de très vivant dans ces créations. On a l'impression d'avoir des petits êtres avec nous qui nous accompagnent. Les origamis, ça fait aussi ce côté-là avec les oiseaux, les fleurs. Tu veux décrire les boucles d'oreilles en origami ?
Alors oui, alors pour l'origami, ce que je vais plier, donc c'est des pliages que je fais tout petit, je découpe mes grandes feuilles d'origami tout petit. Je ne fais pas avec des mesures précises parce que je veux créer que des pièces uniques. Jamais un même pliage aura tout à fait la même dimension. Et puis j'essaye de varier énormément mes couleurs, mes papiers. J'essaye de faire des trucs plutôt colorés. Je reste toujours sur le thème de la nature. Alors j'ai parlé d'une chouette, d'un champignon. Là, je vais avoir des fleurs, des insectes, des oiseaux pour les origamis, les boucles d'oreilles. Donc je fais mon petit origami. J'en fais deux, bien sûr. Je les vernis. Le séchage est plutôt long. Et après, je les perce pour faire un montage avec des perles que j'essaye de trouver, des perles en bois, en verre, en ivoire, ce genre de matière. C'est avec ça que je travaille et après je termine en mettant le crochet qui permet de s'en servir comme boucle d'oreille.
En fait, tu utilises beaucoup de techniques différentes.
Oui, ben c'est ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est pouvoir diversifier mon activité manuelle. C'est pour mon propre plaisir que je vais utiliser plein de techniques différentes. Et aussi, ça me permet de faire que des pièces uniques. Mais ça, encore une fois, c'est quelque part pour mon propre plaisir.
Et ça fait combien de temps que tu crées des bijoux ?
Je m'y suis mise sérieusement il y a quelques mois, mais j'avais déjà fait ce genre de choses dans l'enfance. Quand j'étais petite, ma mère montait les origamis que je faisais en boucle d'oreille, et ça m'a marquée. Et quand j'ai cherché ce que je voulais faire de mes mains, je me suis souvenue de ça, et ça m'est assez rapidement revenu. Maintenant, j'étais assez grande pour faire moi-même les montages des boucles d'oreilles, moi-même le vernis et ce genre de choses. Et ouais, du coup, ça fait un moment que je peux dire que je fais des bijoux, surtout qu'au départ, je faisais des costumes, des cosplays et ce genre de choses. Et il m'arrivait souvent de devoir créer des accessoires, des bijoux, en plus de coudre le déguisement. Et j'ai gardé cette partie-là uniquement, qui était en fait la partie qui me plaisait le plus, parce que j'adore tout ce qui est minutieux.
Et tu parles du coup de cette continuité avec l'enfance. Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancée maintenant en tant qu'adulte à créer ces bijoux?
C'est probablement une révélation que je dois à mes études. Alors, j'ai fait 2 ans d'études en BTS pour devenir monteuse pour le cinéma. Donc, pas grand-chose à voir à part le côté artistique. En fait, depuis toujours, je veux faire de l'art. C'est probablement dû à mon milieu familial. Mon père est batteur, musicien, ma mère est artiste peintre. Donc oui, je voulais faire de l'art, c'était plutôt une évidence. Du coup, je m'étais lancée dans le cinéma, dans la spécialisation de monteuse. C'était quelque chose que j'appréciais. J'y ai passé 2 ans de mes études. Et en fait, pendant ces 2 ans d'études, c'était plutôt compliqué pour moi. J'y ai vraiment consacré tout mon temps. Je ne faisais que ça, apprendre, préparer les devoirs, ce genre de choses. Et aussi, bien sûr, les cours pratiques de montage. Et à la fin des 2 années d'études, je me suis rendu compte que j'étais pas satisfaite par la pratique. Il me manquait vraiment quelque chose. Et en fait, cette chose, c'était la création manuelle. Dès que j'ai fini mes études, je me suis mise à créer à fond. Je retrouvais ça, j'en avais besoin en fait. Et oui, en fait, je veux faire de l'art, mais en fait, ce que je cherchais dans l'art, c'était cet aspect manuel. Du coup, le montage ne correspond pas tout à fait à ce besoin-là. C'est comme ça que je m'en suis rendu compte, et du coup, je me suis plongée à fond dans l'aspect manuel, et je me suis rendu compte que c'était un investissement pour les matières premières, mais aussi un investissement de temps. Et c'est là que j'ai commencé à envisager de rentabiliser mon temps. Au début, je vendais mes trucs à mes amis, enfin vendais entre guillemets, juste ils me donnaient un peu d'argent pour rembourser mes matières premières. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de en faire un business.
Et La Trouvaille, c'est une émission qui met en avant des jeunes créateurs et créatrices qui sont débutants et débutantes dans la pratique. Toi, tu dirais que tu te situes où? Quel est ton niveau de pratique concernant la création de bijoux?
Alors moi, je suis clairement débutante, je n'ai jamais eu de formation ou de personne qui m'a apprise à faire ça. J'y suis toujours allée à l'instinct, donc j'ai conscience qu'il y a certains trucs qui sont pas tout à fait parfaits. Par exemple, je me suis rendu compte récemment en portant... Enfin, je porte mes propres bijoux quand même pour voir s'il y a des problèmes. Et je me suis rendu compte en portant mes petites chouettes que le fait que le pendatif soit une boule fait qu'il roule sur la poitrine en général et que du coup le visage de la chouette n'est pas en face. Donc là j'ai commencé déjà à créer des nouveaux modèles où j'ai un peu aplati l'arrière et ce genre de petites choses que j'apprends au fur et à mesure et en portant mes propres bijoux. Et aussi en acquérant du matériel au fur et à mesure, j'ai des nouvelles idées, je comprends un peu plus comment ça fonctionne. Il y a plein de défauts sur les bijoux parce que le papier, c'est quelque chose de fragile. Si tu as loupé ton trou qui se fait à l'aiguille, si tu l'as loupé une première fois, en fait, on pourrait quasiment dire que tout est à jeter puisque si tu fais un deuxième trou, après, la boucle d'oreille ne va plus être très stable. Du coup, voilà, j'apprends sur le tas. Donc, je suis vraiment une apprentie, une débutante. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses encore avoir à apprendre ?
Beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai notamment réalisé que un des bijoux qui plaisait beaucoup et que les gens achetaient beaucoup, c'était les bracelets. Alors moi, je n'étais pas du tout branchée sur la question et c'est vrai que moi-même, je mets beaucoup de bracelets. Et du coup, j'ai commencé à envisager de vouloir faire des bracelets. C'est la prochaine chose que j'aimerais vraiment apprendre concrètement. J'aimerais faire des bracelets en cuir. Donc j'ai rencontré quelqu'un via La Trouvaille justement qui fait le travail du cuir et je l'ai contacté après l'émission pour qu'elle puisse m'apprendre son travail du cuir et on est censé bientôt se fixer un rendez-vous, j'ai bon espoir là-dessus.
Et qu'est-ce que tu penses que tu pourrais nous apprendre à nous sur ta pratique de création de bijoux ?
Alors, je fais pas des choses techniquement incroyables. Je pense que c'est vraiment à la portée de tous, du moment qu'on a la patience d'être minutieux ou l'envie, tout simplement. C'est difficile d'apprendre quelque chose sans l'avoir dans les mains, là, actuellement. Je peux vous montrer comment est-ce qu'on fait des petites boules d'argile, mais il faudrait que vous ayez des petites boules d'argile dans les mains. Je peux vous montrer comment est-ce qu'on fait les pliages, mais c'est plus logique qu'on s'accompagne en faisant un pliage ensemble. Je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais apprendre. La peinture, juste ça s'apprend en faisant au fur et à mesure la peinture. Le pliage, tu affines ta capacité à plier. Plus tu essayes de prendre des papiers petits, plus tu regardes différentes manières de plier, plus tu refais le même pliage aussi. Faut pas hésiter à refaire des pliages. Des grues, c'est le pliage de base qu'on a en tête quand on pense à l'origami. Des grues, j'en ai fait, mais une flopée. Et plus j'en fais, plus je sais comment être précise et comment aller vite dans mes pliages. Là, apprendre quelque chose techniquement, je ne saurais pas le faire. Il faut juste le pratiquer concrètement, je pense.
Tu nous as parlé des boucles d'oreilles en origami, des pendentifs en argile. On a aussi sous les yeux un pic à cheveux. Comment tu as fait pour le réaliser ?
Alors, le pic à cheveux, c'est quelque chose que je voulais faire personnellement pour moi. Malheureusement, j'ai coupé mes cheveux entre-temps. Donc, je ne peux même pas porter mes propres pics à cheveux, ce que je trouve vraiment dommage. Et c'est juste que dans une brocante, il y avait quelqu'un qui... Ah oui, je fais beaucoup les brocantes, les vide-greniers, ce genre de choses pour pouvoir récupérer des perles et ce genre de matériaux parce que j'aime bien travailler en recyclage. Je trouve que c'est une source d'inspiration déjà. Et puis ça me permet de diminuer le coût de ce que j'aurai à vendre parce que j'aimerais que tous mes produits restent accessibles. Du coup, j'étais dans une brocante. Et il y avait quelqu'un qui vendait un énorme lot de baguettes, les baguettes pour manger. Et ça m'a inspirée, et j'ai pris tout le lot, et il m'a vendu ça à 1 euro, quoi. Et après, j'ai passé, c'est beaucoup de temps après, je les ai percés à la perceuse en haut, puis après je les ai peints, j'ai fait plein de motifs différents. Là, j'en ai amené qu'un seul. Alors bon, j'aurais dû normalement affiner la pointe. On m'a fait le retour plus tard, mais comme je ne pouvais pas les porter, là pour le coup, j'ai dû faire confiance à d'autres personnes pour me faire des retours. Après avoir peint, j'ai mis du vernis, plusieurs couches, pour que le bois soit vraiment lisse et imperméable et que la peinture ne s'écaille pas. Et enfin, j'ai fait, au niveau du trou que j'avais fait en haut, j'ai monté alors soit un ensemble de perles, parfois j'ai mis un pompon ou ce genre de choses, qui fait un petit pendant, c'est-à-dire si on porte le pic à cheveux en diagonale, on va avoir une petite perle qui pend. Alors celui que j'ai amené, j'ai essayé de le faire en style plutôt gothique dans l'idée, donc il est noir et rouge, et le pendant c'est une chaîne avec une perle rouge plate, une perle en bois. Et là j'ai fait un système un petit peu spécial, c'est-à-dire qu'on peut détacher le pendant. Alors, je le fais en même temps pour montrer si Colline veut décrire avec moi. On peut détacher le pendant, si on ne veut pas le porter en diagonale, mais plutôt à l'horizontale, pour après pouvoir passer une partie du pendant sur le bout du pic. Et après, une chaîne vient passer du coup sous le chignon qu'on se sera fait. Et on met le pic à cheveux à l'horizontale, le chignon passe entre, il y a la chaîne qui passe en dessous, et il y a toujours un petit pendant avec la perle en bois. Donc il y a deux manières de porter les pics à cheveux que je fais.
Ils sont tous avec ce système d'attache ?
Alors pas tous, j'en ai fait certains un peu plus simples parce que j'ai remarqué que mes pics à cheveux plaisaient aux enfants et j'aime bien voir que mes bijoux peuvent parfois plaire aux enfants. Ce système d'attache est peut-être un peu compliqué, donc voilà. J'essaye vraiment de faire des choses dédiées pour les enfants parfois, d'aller vraiment dans un style plutôt naïf. Alors là c'est pas le cas de tout ce que j'ai amené. Là, j'ai décrit un truc que j'avais fait un petit peu style gothique, mais ouais, je fais un peu tous les styles du coup.
Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans la création de bijoux ?
Déjà, le fait de pouvoir faire des choses manuelles, d'envisager d'en vivre, et puis tout cet aspect de minutie, de détail. J'ai cherché vraiment à travailler sur du tout petit. Et ça me prend entièrement, c'est quelque chose qui nécessite toute ma concentration et je peux me plonger à fond dedans. Et c'est vraiment génial ça. Et cet aspect aussi que je vais faire jamais deux fois la même chose et que je vais devoir toujours un petit peu improviser. Et aussi le temps passé à se dire « Ah, cette perle-là, elle va bien avec ce papier-là. Et si je la mets à côté de cette perle-là, ça fait un joli montage, etc. » Et bon, c'est beaucoup de temps à monter et démonter la boucle d'oreille que tu as fait avant de trouver un truc satisfaisant. Mais j'aime beaucoup ce temps-là qui est vraiment un temps que je trouve créatif.
Et c'est quoi les aspects qui peuvent te déplaire ?
Alors moi, je déteste attendre que mes trucs ils sèchent en général, alors que ce soit l'argile jusqu'à ce qu'il durcisse ou le vernis que je mets après. J'aime pas trop aussi faire des montages pour les colliers parce que c'est quelque chose qui est assez répétitif. C'est toujours, tu utilises ta pince, ton attache à collier, le petit crochet. J'ai pas les termes techniques, malheureusement, comme je n'ai pas appris auprès de quelqu'un. Mais oui, c'est cet aspect. En fait, c'est tout ce qui va devenir répétitif qui me déplaît.
Et ça m'amène à la question de savoir ce que toi, tu recherches dans la création. Tu parlais de cette concentration qui te prend pleinement. Ça t'apporte quoi, personnellement, de créer ?
Déjà, la création, de manière générale, c'est une manière de s'exprimer. C'est un moyen d'expression de moi, de mes goûts. Et c'est quelque chose qui va encore plus loin parce qu'après, je peux partager cette création et il y aura des personnes qui seraient prêtes à payer pour acheter ce que j'ai à proposer, des choses qui sont parfaitement dans mes goûts. Et de voir que mes goûts plaisent à ce point, c'est quelque chose qui donne beaucoup de valeur à soi-même. Donc il y a cet aspect-là, mais aussi je cherche un temps presque d'évasion et de solitude où je vais être vraiment plongée dans la création et consacrée qu'à ça. C'est une pause dans la vie pour moi. Et donc je pense qu'il y a ces deux aspects, à la fois cet aspect de reconnaissance sociale et de contact avec l'autre à travers les créations, mais aussi cet aspect de solitude et de pause. Je cherche les deux choses à deux étapes différentes, bien sûr. Quand la création se fait, quand elle est finie, ça va être deux choses différentes que je vais chercher, je pense.
Mmh. C'est chouette ce que tu dis, ça donne envie de s'arrêter et de prendre un temps pour créer.
Et ben, j'invite de toutes les manières ce que je fais. Je pense que vraiment tout le monde peut le faire. C'est juste, il faut savoir y consacrer son temps et y donner de l'importance. On peut tous devenir compétents dans ce que je fais finalement.
C'est un peu l'invitation que tu fais dans la trouvaille aussi, de consacrer un temps à la création, mais plus à travers la parole.
Oui, voilà, c'est ça. Je veux encourager les gens à créer et c'est très difficile parce que tout ce qui touche surtout à l'art, c'est quelque chose qu'on n'envisage pas forcément. Enfin, c'est compliqué d'en vivre. Et même l'artisanat, parfois, c'est compliqué d'en vivre. Du coup, on a tendance à mettre ça de côté et peut-être à devenir plus des consommateurs de création que des créateurs. Et ça, je trouve ça dommage.
Et tu parlais de cette évasion. On retrouve ça d'ailleurs dans les thèmes de tes créations. Quelles sont à toi tes sources d'inspiration pour créer ?
Alors, bon, bien sûr, il y a la nature, ce qui est pour moi la chose qu'on peut le plus admirer dans la vie. Mais il y a aussi un petit peu tous les aspects fantasy. Je suis une fan d'œuvres de fantasy de manière générale, peu importe leur format, roman, BD, film, jeux vidéo. La fantasy, j'adore. Et ben forcément, je pense que ça se voit dans ce que je crée. Donc ouais, je pense que ça, c'est de l'inspiration pour moi.
Ouais, le champignon, il a un côté un petit peu dessin animé ou champignon vénéneux, magique.
Oui, alors les champignons, ça vient d'une idée qu'on avait avec des amis, parce que les champignons sont quand même vachement fascinants, c'est ni des animaux ni des végétaux, enfin c'est quand même un règne à part. Et avec des amis, on s'était dit, viens, on se déguise en champignons et viens, on crée les costumes nous-mêmes. En fait, les champignons, ce sont les premiers bijoux que j'ai commencé à faire un peu à la chaîne, entre guillemets, parce que, bon, comme je disais, il n'y a que des pièces uniques, mais que j'ai fait plusieurs et que j'ai commencé à faire des tests et à tester plusieurs matières et à vraiment vouloir en faire plusieurs bijoux. C'est parce que on avait créé ces costumes et que je m'étais trop amusée à faire les petits accessoires, la petite couronne de champignons, la paire de boucles d'oreilles, la ceinture avec des petits champignons qui poussent dessus et ce genre de choses. Donc j'ai commencé après à en faire des bijoux de plus en plus propres et qualitatifs en dehors de ces costumes-là.
C'est quoi comme champignon déjà ? C'est champignon rouge avec des taches blanches ?
C'est les amanites tumouches. Mmh. Alors champignon totalement mortel, mais que dans l'imaginaire collectif, quand on dit champignon, c'est le premier qui nous vient en tête en général. Et c'est aussi les champignons qu'on retrouve un peu dans les dessins animés, un peu cartoon et ce genre de choses. Et surtout, il y a de la couleur. Il y a de la couleur et pas non plus trop de formes compliquées qui passeraient pas dans un format tout petit. Et ça, vraiment, du coup, ça rend bien en pendentif.
La petite chouette, ça fait penser à un petit être, peut-être dans un film de Miyazaki, non ?
Oui, oui, oui. Alors, je suis fan de l'univers de Miyazaki. Si j'ai envisagé de faire des produits dérivés, donc de m'inspirer de certaines œuvres pour faire mes bijoux, les films de Miyazaki sont vraiment la première chose vers laquelle je me suis tournée quand j'ai pensé à faire des produits dérivés, parce que déjà, je pense y faire référence de manière indirecte dans absolument tout ce que je crée, puisque j'ai grandi avec ces films. Sinon, pour la question des produits dérivés, si je dois citer une autre œuvre à laquelle j'ai pensé, c'est Hollow Knight, qui est un jeu vidéo et qui a ce style très mignon. Et en fait, tous les personnages de Hollow Knight sont des insectes. Et du coup, ça me parle et ça rentre bien dans mon univers. Et aussi, il y a toute une zone dédiée aux champignons. Et je ne résiste pas à l'envie de proposer de faire passer la musique de cette fameuse zone des champignons. Donc, je vous laisse à l'écoute d'une OST d'Hollow Knight. Vous venez d'entendre une musique du jeu Hollow Knight. C'est la musique de la zone des champignons. Et oui, ça, j'ai adoré cette zone, c'est incroyable. Oui, j'envisage de faire peut-être des produits dérivés sur ce jeu et sur les films et l'univers de Miyazaki.
C'est quoi la différence entre inspiration et produits dérivés pour toi?
Alors, produits dérivés, alors oui, j'ai utilisé le terme, à mon avis, pas comme il faudrait. Produits dérivés, on paye la licence. On est avec la licence va gagner de l'argent sur ce qu'on va créer. On la paye pour pouvoir faire vraiment exactement ce qu'elle a à proposer. Voilà. Énormément de licences ont gagné beaucoup d'argent sur les produits dérivés. Je pense à Pokémon ou Star Wars, par exemple. Moi, je ne peux pas me permettre de payer des licences. Alors, c'est plutôt de l'inspiration que je vais faire. C'est-à-dire que je vais reprendre le truc, mais avec mon style, ma patte dedans. Par exemple, si je fais une noirode, ça ne va pas être tout à fait la noirode qu'on voit dans mon voisin Totoro. Et inspiration, c'est aussi quelque chose qui va te traverser sans forcément que tu t'en rendes compte. On a forcément des inspirations quand on crée. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'y réfléchir pour conscientiser qu'en fait, on avait telles inspirations. On ne s'en rend pas forcément compte.
Comment tu définirais ton style ?
Le style, c'est plutôt compliqué parce que la question du style, comme je disais, je fais des trucs parfois très enfantins et parfois je vais aller chercher plutôt du côté du gothique et avec tout le panel entre, et je ne saurais pas comment nommer tous ces styles, mais en tout cas, mes lignes directrices, c'est de faire des trucs en lien avec la nature et de toucher aux univers de fantasy. Donc la fantasy, la nature, et ça fait peut-être des choses très colorées et je suis dans la minutie. Donc il y a tout ça dans le style, je pense.
Et la fantaisie, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ça t'inspire ?
C'est une question plutôt compliquée. Je pense que ça m'inspire parce que j'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours été en contact avec des œuvres de fantaisie. Donc ça a transparé là-dedans et j'ai toujours voulu créer des univers de fantaisie. Donc je pense que c'est ma manière de créer mes univers de fantaisie, c'est à travers les bijoux. Et ça m'inspire parce que j'ai toujours trouvé ça beau en fait. Ben, les bijoux, c'est quelque chose fait pour se rendre plus beau, entre guillemets, se mettre en valeur ou rajouter une petite touche. C'est très en lien avec la beauté, alors ça me paraît normal que je fasse des choses qui me paraissent belles.
Et tu pourrais expliquer c'est quoi la fantaisie en fait comme genre artistique?
La fantaisie, alors je peux définir le genre littéraire, c'est des univers inventés. À différencier avec le fantastique où on a du paranormal qui arrive dans le monde réel. Là, on est sur totalement un univers fictif de toutes parts qui n'a plus grand-chose à voir avec notre univers d'origine. Et ce qu'on associe à la fantaisie, c'est par exemple le Seigneur des Anneaux qui est une œuvre phare. C'est des choses, on va avoir souvent des elfes, des nains et plein de petites créatures fantastiques comme ça. Ça me fait penser à tout ce qui est un petit peu les légendes irlandaises aussi. C'est ce genre d'univers. Voilà, pour ce qui est de la fantasy. C'est quelque chose qu'on associe beaucoup aux enfants, même s'il y a ben, tout ce qui est dark fantasy qui n'est plus pour les enfants en général. Ouais, c'est quelque chose qu'on imagine bien dans un univers très coloré, peut-être comme les mondes de Narnia et ce genre de choses. Même si les mondes de Narnia, je crois que c'était techniquement du fantastique puisqu'on parle du monde réel à l'origine.
Tout à l'heure, tu parlais de faire un business à partir de la création de bijoux. Quelle est la finalité que tu entreprends pour cette pratique ?
Alors moi, j'aimerais beaucoup vendre sur les marchés, les brocantes, ce genre de trucs, parce que ben, j'ai toujours adoré l'ambiance des marchés et que j'ai souvent fait des marchés avec mes parents. Et donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire, qui je trouve est très bien pour le contact social. Et on a tous besoin de contact social et je trouve ça génial de pouvoir avoir en face de moi les personnes à qui je vends, de pouvoir leur parler, voir leurs réactions, etc. Donc les marchés, c'est l'endroit où j'aimerais vendre, mais aussi les boutiques de créateurs où je pourrais tenir des permanences pour encore une fois être en contact direct avec le client, dans l'idée. Voilà un petit peu ce que je verrais pour ma pratique. Concrètement, du coup, ce serait une micro-entreprise.
Et pour l'instant, tu vends aussi sur Internet ?
J'ai pas fait de site en ligne et je n'ai pas encore l'autorisation de vendre officiellement puisque j'ai pas encore obtenu le statut pour la micro-entreprise. Alors, vendre en ligne, ça me déplairait. Je sais que ça pourrait fonctionner et ça me permettrait de toucher des publics très larges et peut-être même à l'autre bout du monde. Mais comme j'ai dit, j'aimerais bien être en contact direct avec mes clients. Donc, vendre en ligne, ce serait un bon plan, mais un plan qui me plaît pas.
En tout cas, tes créations, on peut quand même les retrouver sur Internet, sur Instagram, c'est ça ?
Oui, j'ai créé un compte Instagram pour pouvoir vendre mes créations. Alors, j'ai du mal à être active sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que j'arrive pas trop à faire, à entretenir. Mais je me suis promis que là, j'allais essayer de poster régulièrement des belles photos parce que pour moi, c'est très important aussi de faire des belles photos. Je veux pas les faire à la légère, mes photos. Et de poster une photo par création parce que dans l'idée, comme je fais des pièces uniques, je pense que faire un post Instagram par création, c'est mettre en valeur cet aspect unique. Alors j'ai eu du mal à trouver cette ligne directrice et au début mon compte Instagram il me servait à poster mes dessins, mais mes dessins je vais pas non plus les laisser de côté. Je disais que je voulais faire de la déco, j'envisage d'en faire des posters et ce genre de choses. J'essaye juste encore de trouver quel style je vais donner à ça. J'ai pas encore trouvé de ligne directrice pour ça, donc ça c'est en stand-by. Mais mes dessins, je peux les vendre, mes créations, je peux les vendre. Et ce que vous voyez sur mon compte Instagram, c'est tout à vendre en général.
Alors, c'est quoi le nom de ce compte Instagram ?
Alors, le compte Instagram, il porte mon nom, Maedoma. Mais je crois que pour le retrouver, on va plutôt utiliser le nom que j'envisage de donner à mon entreprise, qui est Yumi Lazu, alors qui s'écrit Y-U-M-I. Il me semble que j'ai mis entre les deux, pas un espace, mais un tiré du bas. Et Lazu, qui s'écrit L-A-Z-U.
Il vient d'où ce nom ?
Quand j'étais petite, j'inventais beaucoup d'histoires. Et ça, c'est le nom de mon personnage qui revenait dans la plupart de mes histoires. Personnage principal en général, mais c'est aussi un pseudonyme que j'utilise depuis longtemps sur les réseaux sociaux et sur les jeux vidéo en ligne.
Et tu peux nous décrire ce personnage de l'enfance ?
Non, pas vraiment, parce que selon les histoires, il avait peut-être le même nom, mais il n'avait totalement rien à voir. Mais je peux assurer que c'était dans des univers de fantasy qui étaient souvent en lien avec le dernier film que j'avais vu ou la dernière lecture que j'avais faite. Donc c'était très changeant.
Yumi Lazu.
Voilà. Lazu qui est de mémoire une référence à la pierre Lapis Lazuli et que j'en avais vu une vraie et que j'avais été impressionnée quand j'étais petite.
Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer pour créer des bijoux ?
De pas hésiter à se croire capable, parce que je pense que c'est la chose la plus difficile, c'est de se dire ben en fait j'ai les compétences, même si j'ai jamais été formée, ce que je fais c'est bien, ça peut plaire. C'est surtout aussi ce truc de ça peut plaire et de pas hésiter à être personnel, mais ça c'est un conseil général pour tout ce qui est la création. Il faut pas hésiter à être personnel en fait. Toi, ta personnalité, elle va déjà être originale et elle a tous les moyens de plaire. Oui, voilà, ce serait un peu mes conseils.
Et toi, de quoi tu aurais besoin pour poursuivre dans cette voie ?
Alors, déjà, comme j'ai dit, j'ai besoin d'apprendre le travail du cuir si je veux faire des bracelets. J'ai besoin d'expérience, mais aussi quand j'aurai enfin obtenu mon statut pour la micro-entreprise, j'aurai besoin de boutiques pour m'accueillir. J'aurais besoin aussi de trouver une place sur les marchés, mais ça, normalement, je pourrais y arriver. Et j'ai besoin de clients. J'ai besoin de trouver des gens qui sont prêts à investir pour mes créations. Et ça, c'est peut-être une chose que je trouve pour l'instant difficile, mais j'espère que ça va venir.
Ça m'amène à la question suivante. De qui aurais-tu besoin ? Mais tu viens peut-être d'y répondre.
Oui, voilà. Des personnes qui tiennent les boutiques, d'organisateurs de marchés, avec qui je rentrerai forcément en contact, et des clients qui ont le même goût que moi.
Ça va être le moment de conclure cette édition de La Trouvaille. Est-ce que tu as envie de rajouter un dernier mot pour finir ?
Peut-être je voudrais revenir sur La Trouvaille, qui a été une super expérience pour moi et que je suis triste de devoir conclure. À l'origine, j'ai lancé cette émission parce que je lançais en même temps, je commençais à peine à avoir l'idée de faire des bijoux. Et ça a été une manière de m'encourager. Le fait d'encourager des autres avec cette émission, ça a été ma manière de m'encourager et d'arriver aujourd'hui et de vous dire un peu quelles sont mes lignes directrices et d'être capable de ce genre de choses et de pouvoir présenter plein de petits bijoux. Donc cette émission, ça a été vraiment une super expérience. J'ai fait des belles rencontres.
Tu veux nous parler de quelques rencontres ?
Déjà, j'ai mentionné tout à l'heure le travail du cuir. Et en fait, ça, c'est une rencontre. Bon, en plus d'avoir quelqu'un qui était vraiment super, c'est une rencontre qui va m'être utile et qui va me permettre de poursuivre. Donc, bon, si vous n'avez pas écouté son émission, vous pouvez y aller. Elle est sur le site de InfoRC, donc sur la maroquinerie. J'ai eu aussi d'autres super rencontres, mais surtout, j'ai appris énormément de choses dans les pratiques. Quand je posais des questions, il y avait des pratiques que je connaissais vraiment rien, comme la création de jeux vidéo, le cirque aussi. C'est des choses, enfin, j'ai appris beaucoup de choses. C'était vraiment très riche comme expérience.
C'est une émission qui t'a accompagnée et encouragée dans ta propre pratique créatrice.
Oui, voilà, c'est ça.
Eh ben, merci Maë pour avoir créé cette émission La Trouvaille. Merci aussi d'avoir été l'invité de La Trouvaille pour cette émission de clôture. Et merci à vous de nous avoir écoutés.
Eh bien, merci de m'avoir reçu et merci pour l'écoute.
La Trouvaille. Lieu de rencontre des jeunes créateurs.